Vous écoutez, on lit pour vous.
Le hockey professionnel féminin, plus d'un siècle de passion. Un texte d'Éric Martel, paru le 3 septembre 2024 dans La Presse. Des partisans entassés dans les gradins. De nouvelles idoles. Une attention médiatique inédite. Non, il n'est pas question ici de la Ligue professionnelle de hockey féminin, LPHF. Plus d'un siècle avant son arrivée, le hockey féminin causait l'émoi à Montréal lors de la Première Guerre mondiale. La Ligue professionnelle de hockey que l'on voit aujourd'hui, elle ne sort pas de nulle part, rappelle l'historien et directeur de l'atelier d'histoire Mercier Hochelaga Maisonneuve, Olivier Dufresne. Mais si on comprend bien cette histoire-là, on peut comprendre ce qui se passe dans le hockey féminin d'aujourd'hui avec plus de finesse, ajoute-t-il. À la fin du 19e siècle, le sport féminin est peu encouragé. Par exemple, l'ancien président du Comité international olympique, Pierre de Coubertin, s'oppose à la participation des femmes aux Jeux olympiques modernes en 1896. Dans la même veine, l'Église catholique s'y oppose. Selon l'Église, le rôle des femmes n'était pas de jouer ou de s'amuser, mais plutôt d'avoir des enfants, de se concentrer sur la famille, rappelle Olivier Dufresne. L'arrivée de la Première Guerre mondiale renverse la tendance. Comme dans les usines, les femmes remplacent les hommes partis au front. Tout débute avec l'entreprise Bell, qui présente une ligue mettant en vedette 6 équipes formées de téléphonistes. Elle porte le nom de ces 6 centrales téléphoniques. À l'Aréna Mont-Royal, les partisans se présentent en grand nombre pour assister à ces parties. Les journaux décrivent chaque rencontre le lendemain. La Ligue ne durera qu'un hiver, mais connaîtra un succès fracassant. Elle mettra la table pour le hockey féminin professionnel qui arrivera l'année suivante. Les Dames de l'Est. Dans le quartier Hochelaga, un patinoire, c'est ainsi qu'on nommait les patinoires à l'époque, est inauguré en 1908. Le Jubilé. Propriétaire de l'équipe professionnelle masculine des Wanderers, en veilleuse avec la guerre, Patrick J. Doran tente par tous les moyens de rentabiliser son aréna. L'idée de fonder une ligue féminine, qui sera surnommée les Dames de l'Est par les médias, lui vient à l'esprit. L'historien Olivier Dufresne souligne que l'objectif était carrément de faire des revenus. Les propriétaires n'avaient pas d'idéal féministe, ça, c'est certain. Le premier match officiel sera tenu le 13 décembre 1915. Les Maisonneuve Stanley affronteront le Western, tandis que le Télégraphe s'opposera au North End Stanley. D'autres matchs féminins ont eu lieu dans le passé, mais celui-ci revêt une importance particulière. Pour la première fois de l'histoire, les joueuses sont rémunérées. On ignore cependant le montant qu'elles recevaient pour chaque partie. En se basant sur la capacité de l'aréna et sur le prix des billets, l'historien Michel Vigneault déduit toutefois que les joueuses pouvaient empocher environ 1 000 $ pour une saison de 10 matchs. En tenant compte de l'inflation, cela revient à environ 20 260 $ d'aujourd'hui. Sachant que les ouvriers de l'époque étaient payés 500 $ par année, ce serait un bon salaire, estime le chargé de cours en histoire de l'activité physique à l'UQAM. Chose certaine, les Dames de l'Est attiraient les foules. La capacité du Jubilé était de 3 200 places, mais comme il était composé de bancs et non de sièges, environ 5 000 spectateurs pouvaient s'y entasser à chaque partie, explique Michel Vigneault. Les spectateurs déboursaient entre 25 et 75 sous pour assister au match, en 1917. Les gens avaient besoin de divertissement pour oublier la guerre, indique M. Vigneault, pour justifier la popularité de la Ligue. C'est un peu le même phénomène qui est arrivé avec Maurice Richard dans les années 1940, dans la foulée de la Seconde Guerre mondiale. Lorsque des matchs d'exhibition seront disputés contre l'équipe de Cornwall, la compagnie des tramways doit mobiliser plus de wagons tellement l'enthousiasme des partisans est fort. La passion d'Albertine. Au début de la saison, en 1916, la Ligue des Dames de l'Est compte 4 équipes. Elle en ajoute peu après une cinquième, le Hochelaga, composé uniquement de joueuses francophones. Cette nouvelle équipe détonne, car la plupart des joueuses du circuit sont des femmes anglophones, bourgeoises et protestantes. Des femmes davantage émancipées des préceptes de l'Église catholique. Du lot émerge une vedette francophone. Agnès Vautier. La hockeyeuse se distingue puisqu'elle vient d'un milieu populaire, mais surtout par ses prouesses sur la glace. Menée par elle, le Western, qui porte les mêmes couleurs que l'équipe masculine des Wanderers, remporte les championnats de 1916, 1917 et 1918. Dans les quotidiens, Vautier est comparé à des vedettes des Canadiens de Montréal comme Noisy Lalonde et Didier Pitre. Les joueurs du CH, eux, font partie des nouveaux amateurs du hockey féminin, si bien qu'ils se déplacent au Jubilé pour assister à quelques parties. Vautier est reconnue comme la meilleure joueuse avant qu'elle ne trouve chaussure à son pied. Lors de deux matchs contre l'équipe de Cornwall, une nouvelle recrue franco-ontarienne s'illustre, Albertine Lapensée. Lapensée est si dominante que les accusations fusent. Des accusations qui ont de quoi rappeler une certaine boxeuse algérienne, source de plusieurs ragots plus d'un siècle plus tard. Lapensée était tellement bonne qu'il y avait des rumeurs comme quoi elle était un garçon déguisé en femme, raconte M. Dufresne. Un journaliste du Montreal Star va même se rendre à Cornwall pour enquêter, à savoir s'il s'agit vraiment d'une femme. Dans des circonstances complètement inconnues, Lapensée disparaît en 1917. Son départ coïncide avec la montée de la violence au hockey féminin. Les lancers de bâtons, les bousculades et les disputes entre les joueuses sont de plus en plus fréquents. Quatre joueuses sont carrément expulsées du circuit en raison de leur jeu violent. L'augmentation de la violence rime avec une réduction de l'intérêt des médias envers la Ligue des Dames de l'Est. Avec le retour des hommes, en 1918, la Ligue disparaît carrément. D'Albertine à Sarah. L'Université McGill demeurera une pépinière de joueuses de hockey dans les années 1920. Mais dans les années 1930, le programme sera abandonné dans la foulée de la crise économique. Le hockey féminin connaîtra une période creuse jusqu'en 1980. Et encore, les femmes se battent toujours aujourd'hui pour vivre de leur sport. Montréal aura connu les Canadiennes de 2007 à 2019, la Force de 2022 à 2023, puis sa nouvelle équipe, son nom, fondée l'an dernier. Plus d'un siècle aura passé. Mais le sport féminin se base en partie sur les mêmes stratégies de marketing. Si Albertine Lapensée et Agnès Vautier faisaient déplacer les foules au début du 20e siècle, c'est maintenant autour de têtes d'affiches comme Marie-Philippe Poulin et Sarah Nurse de le faire. On le voit au basketball avec Kathleen Clark. C'est le gros nom qui vend. Même ceux qui ne connaissent rien au basketball féminin la connaissent. C'est certainement un grand facteur de succès, conclut Olivier Dufresne. Quels que soient les facteurs de succès de la LPHF, l'histoire nous aura appris une chose. Le hockey professionnel féminin peut repartir aussi vite qu'il arrive, d'où l'importance de ne rien tenir pour acquis malgré les avancées retentissantes des derniers mois. Un passage à Hochelaga. L'année 1918 marque la fin du hockey professionnel féminin, mais aussi le retour des Canadiennes de Montréal à l'aréna du Jubilé. Le domicile du tricolore, l'aréna Westmount, est la proie des flammes le 2 janvier 1918. L'équipe migre donc au Jubilé, l'aréna dans lequel elle avait disputé ses trois saisons inaugurales. C'était le hockey professionnel féminin plus d'un siècle de passion, un texte d'Éric Martel paru le 3 septembre 2024 dans La Presse.
Symposium 2024 à Vancouver sur l'accueil des réfugiés victimes de torture, un texte de Marc Béliveau paru le 5 mars 2024 dans le journal La Source en Colombie-Britannique. Fondée en 1986, la Vancouver Association for Survivors of Torture, VAST, est devenue l'un des plus importants centres de réadaptation pour réfugiés au Canada, travaillant avec des survivants de plus de 100 pays dans 12 langues différentes. Depuis près de 35 ans, l'organisme tient un symposium annuel sur la torture afin de sensibiliser la population au sort des réfugiés et des victimes de la torture. Selon le Comité canadien de l'Agence des Nations unies sur les réfugiés, UNHCR, le Canada a accueilli 1 088 015 réfugiés depuis 1980. Parmi ceux accueillis au Canada, il y a un certain nombre de personnes ayant été victimes de tortures et de violences. Et ces gens ont des besoins particuliers. Parmi les conférenciers invités au symposium, qui s'est tenu le 27 février 2024, le Dr Ahmad Hashmi, membre au sein de VAST, résume ainsi le cycle de 3 phases critiques dans l'intégration des réfugiés victimes de traumatismes divers. La première phase, dans le camp où se trouvent les réfugiés, c'est la prise de décision angoissante de quitter son pays, sa famille et ses amis, et la perspective de devoir apprendre une langue étrangère. Avant même leur départ, ces réfugiés vivent un degré d'inconfort et d'incertitude. Puis, une fois arrivés dans leur pays d'accueil, plusieurs ressentent une perte d'identité et un choc culturel face aux défis à relever. Ils sont sans statut, sans famille et sans communauté, donc en situation de vulnérabilité. Finalement, en l'absence de liens sociaux, leur intégration est souvent longue et pénible en raison de leur situation précaire, côté logement ou travail, et ils sont plus susceptibles d'actes de racisme et de discrimination. Présent à ce symposium de façon virtuelle, Mulugata Abai, directeur du Canadian Centre for Victims of Torture, CCVT, à Toronto, a rappelé les efforts du Canada qui s'est acquis une solide tradition dans l'accueil des réfugiés. Il a rappelé que son organisme, le CCVT, a été fondé en 1983 par des médecins, des avocats et des professionnels des services sociaux de Toronto, associé à Amnesty International. Cette organisation à but non lucratif vient en aide aux survivants de la torture, de la guerre, du génocide et des crimes contre l'humanité. Il a souligné fièrement que le CCVT a été le premier centre du genre en Amérique du Nord et le deuxième au niveau mondial après la création d'un centre pour les victimes de torture à Copenhague, au Danemark. Les deux organismes maintiennent toujours des liens étroits de collaboration. Pour sa part, l'organisme VAST doit sa création à des militants des droits humains et des travailleurs de la santé mentale à Vancouver pour soutenir les réfugiés arrivant des conflits armés en Amérique du Sud et centrale. L'organisme s'intéresse plus particulièrement aux services de soutien et de réhabilitation en santé mentale et bénéficie d'un soutien financier de la Vancouver Foundation. Au cours du symposium de cette année, quelques participantes victimes de torture et de traumatisme ont partagé leur expérience. Maya est née à Téhéran, en Iran. Elle a été incarcérée pendant 4 ans comme prisonnière politique. Elle reconnaît avoir milité pour un changement de régime politique lorsqu'elle était étudiante. Son fils est né en prison et son conjoint a été exécuté par le régime des ayatollahs. Elle a souffert de tortures émotionnelles qui l'a menée à la dépression. Elle a survécu à ses sévices, raconte-t-elle, en s'efforçant de ne pas penser, en effectuant des exercices, en écoutant de la musique et par la lecture, même après son incarcération. Elle affirme s'être libérée en cherchant de l'aide et en faisant face à ses traumatismes. Elle a été accueillie au Canada et elle est aujourd'hui conseillère auprès des victimes de torture. Maria est mexicaine d'origine. Elle faisait la promotion des droits humains au Mexique, mais elle a dû quitter son pays comme réfugiée en quête de protection, ayant été violentée sexuellement. Se relever d'un traumatisme prend du temps, dit-elle. Aujourd'hui, elle détient une maîtrise en psychologie sociale. L'un des participants du symposium leur a demandé comment elles ont pu survivre intérieurement à ce genre de situation. Pour Maya, ce fut son désir d'être une mère exemplaire pour son fils. Et pour Maria, c'était de devenir une voix pour toutes ces femmes victimes de viol et de se faire entendre. Ce symposium 2024 aura permis d'entendre une quinzaine de conférenciers sur l'importance de s'intéresser au sort des réfugiés et de l'aide dont ils ont besoin pour refaire leur vie. C'était Symposium 2024 à Vancouver sur l'accueil des réfugiés victimes de torture, un texte de Marc Béliveau, paru le 5 mars 2024 dans le journal La Source en Colombie-Britannique.
Sur la route avec Roxane Bruno, une entrevue réalisée par Stephen Ross, parue le 23 avril 2024 dans le magazine Fugue. Pour célébrer le printemps en grand, Roxane Bruno a lancé il y a quelques semaines la chanson « Une bouteille à la mer », tirée de son dernier album « Submergé », avant de partir sur la route à la rencontre de ses bien-aimés Brunos, un peu partout au Québec. À quelques jours d'une résidence à l'Olympia, suivie d'un périple qui l'amènera de Sherbrooke à Gatineau en passant par Saguenay, Trois-Rivières et Québec, la chanteuse fétiche de la communauté LGBTQ+, qui a fait la couverture de Fugue il y a 5 ans, juillet 2017, s'est entretenue avec Fugue pour discuter de sa musique, de sa tournée et de ses fans. Une bouteille à la mer aborde notamment la question de l'épanouissement et de l'importance de trouver le bonheur en soi. Comment t'est venue l'inspiration de ce thème et pourquoi était-ce important pour toi de l'aborder maintenant? Après avoir écrit « Je te retiens pas », qui parle d'une rupture nécessaire avec une personne qui ne nous convient pas, il m'est venu l'inspiration de cette chanson qui parle de l'importance de s'épanouir après la déchirure qu'une rupture peut faire. C'est important pour moi d'aborder ce côté également, puisque l'on peut tous trouver le bonheur en soi par nous-mêmes et ne pas dépendre de l'amour des autres pour y goûter. La chanson se démarque du reste de l'album par son rythme upbeat et sa mélodie dansante qui donne envie de bouger. A-t-elle été écrite avec l'objectif initial de faire danser les Brunos? L'objectif premier n'était nécessairement pas de faire danser mes Brunos, mais plutôt de leur offrir une chanson libératrice. Tant mieux si l'aspect libérateur de la chanson les amène à danser sur le morceau. J'ai bien hâte de les voir lors de mes prochains spectacles. Comment se déroule ton processus de création musicale? Est-ce que la musique précède généralement les paroles ou s'agit-il plutôt de l'inverse? En toute honnêteté, je n'ai pas de processus créatif défini. Tout dépend de l'inspiration qui me vient sur le moment. Parfois, les paroles arrivent en premier et d'autres fois, c'est la mélodie que je trouve qui, par la suite, m'inspirera pour le texte. Quelles sont les périodes les plus nourrissantes pour toi musicalement? Les moments de tristesse, d'ivresse, les tournées? Ça peut m'arriver à n'importe quel moment. C'est souvent sous la douche ou lors de moments en voiture. La tournée submergée s'arrêtera prochainement un peu partout au Québec. À quoi peut s'attendre le public avec ce nouveau spectacle? Lui réserves-tu quelques surprises? J'ai vraiment misé gros sur ce spectacle qui se voudra beaucoup plus interactif avec mon public, notamment en utilisant la technologie. Nous avons vraiment visé à offrir un concert unique. Le spectacle se colle beaucoup à ce que je touche dans ma carrière, la musique, l'humour et les vidéos. Je signe également la mise en scène et les visuels du spectacle. Qu'est-ce qui te plaît le plus lorsque tu pars en tournée à la rencontre des fans? J'aime que les chansons appartiennent désormais au public. J'aime sentir qu'elles existent pour une raison et j'adore les trips avec ma gang en tournée. Tu seras présente plusieurs soirs consécutifs dans plusieurs villes, dont 3 soirs à Québec, 3 soirs à Gatineau et 2 soirs à Chicoutimi. As-tu un peu le temps de te déposer et d'apprécier chaque ville lors de tes passages? As-tu un rituel particulier? C'est la première fois que je propose des résidences. Lors de ma dernière tournée, il n'y avait pas vraiment de rituel. Par contre, cette fois-ci, j'espère pouvoir en profiter beaucoup plus pour visiter. Tu as mentionné par le passé que Submergé s'inscrivait dans un désir de s'assumer et d'être en possession de soi, message qui peut résonner tout particulièrement auprès de la communauté LGBTQ+. As-tu un message pour les jeunes qui sont en questionnement ou qui pourraient craindre de faire un coming out? Si les gens ne t'acceptent pas pour ce que tu es, il ne faut pas se gêner pour faire le ménage autour de soi. Il ne faut pas se plier aux désirs et attentes des autres. Par tes créations musicales et la visibilité que te procure ta carrière, tu es en quelque sorte devenu une icône et une figure d'inspiration pour une génération de jeunes personnes LGBTQ+. Comment te sens-tu par rapport à ce rôle? Honnêtement, ce rôle est venu naturellement au cours de ma carrière. Mon but n'a jamais été d'occuper ce rôle, mais je suis très fier de savoir que des gens de la communauté me perçoivent ainsi. Parlons musique. Tu es actuellement sur les routes du Québec alors que le printemps bat son plein. Quelle est ta chanson préférée pour un road trip printanier? Je n'écoute pas de musique en voiture, seulement des podcasts. Celui que j'écoute le plus souvent est « Tout le monde saillit », balado par Marilène Gendron et Sam Cyr. Quelle est la chanson que tu ne te lasseras jamais d'entendre? N'importe quelle chanson des Cowboys fringants. Tout style confondu, quelle est ta découverte musicale récente favorite? Dernièrement, j'ai découvert Bailey Zimmerman. Un artiste ou un style musical que l'on devrait jouer davantage au Québec? On devrait beaucoup plus faire jouer des artistes féminines, tout genre confondu. La chanson qui te fait lever et danser à tout coup? Calm Down de Selena Gomez et Rima. Info: Roxane Bruno sera en tournée partout au Québec jusqu'en 2025. Pour toutes les dates des concerts, on peut se rendre au roxanebruno.com. C'était « Sur la route avec Roxane Bruno », une entrevue réalisée par Stephen Ross, parue le 23 avril 2024 dans le magazine Fugue.
La rentrée littéraire 2024, littérature de l'imaginaire. Des propositions de lecture de Chantal Fontaine, parues le 3 septembre 2024 dans la revue Les Libraires. Spécialisée notamment en littérature fantastique et en science-fiction, les éditions À lire proposent 3 titres cet automne. D'abord, le Canadien Guy Gavriel Kay lance « Toutes les mers du monde » avec Lénia, qui, enlevée toute petite par des pirates, ne conserve aucun souvenir de sa vie d'avant. Maintenant libre, naviguant sur la mer du milieu, elle s'acquitte ici et là de missions avec son acolyte. Lorsque sa renommée atteint sa ville natale et qu'elle y revient, les espoirs du peuple Jade se ravive. Lénia reprendra peut-être contact avec ses racines. Plus contemporain, le roman choral d'Éric Gauthier, Dans ta tête, à moi, déstabilise par son originalité et son éventail de possibilités. Au réveil, un autre que soi s'est emparé de notre esprit. Des souvenirs qui ne sont pas les nôtres s'entremêlent au réel. Ils sont plusieurs à vivre ce phénomène et certains cherchent à trouver les personnes qui les habitent. Mais cela se complique si celles-ci ont disparu. Enfin, Francine Pelletier nous offre une 3e aventure sur la planète Arcadie avec le rire du tournevent. Rescapé d'une mission dangereuse organisée par Far Mar, Lek atterrit dans la cachette d'un scientifique paranoïaque et comprend les risques inutiles qu'il a courus. Entre marchandage douteux d'une entreprise pharmaceutique et désir de vengeance, l'univers d'Arcadie a d'étonnantes similitudes avec nos sociétés. Dave Côté suggère, quant à lui, une immersion dans une dimension parallèle montréalaise avec Overcity, chez Les Six Brumes. Normand découvre que des gens de tous horizons récemment disparus sont maintenant dans Overcity, où ils sont devenus des versions modifiées d'eux-mêmes. Alliant science-fiction et fantastique urbain, l'auteur nous invite à réfléchir à l'image que l'on a de soi et à celle que l'on projette. De fantastique suite. Après le fils du Trickster, Eden Robinson revient avec La dérive du Trickster chez VLB Éditeur, dans lequel Jared, purgé de ses habitudes de drogue et d'alcool, étudie maintenant à Vancouver. Toujours sensible à la magie qui sévit autour de lui, il ne peut non plus échapper à sa famille et tente de mener une existence à peu près normale. Mais ne rêvons pas. Lily Boisvert clôt sa trilogie avec Anan, la guerrière, chez VLB Éditeur, où l'on retrouve une Kaoli désœuvrée puisqu'elle n'a pas réussi à sauver Drisayon. Il lui faudra considérer une manière de se racheter. Enfin, dans le quatrième tome de Maynard Bennett, L'affaire Shepherd, chez Whelan, Dan Robillard, l'équipe s'inquiète des manipulations génétiques qu'elle a subies, mais ne s'empêche pas de partir sur la piste d'un ange en plein Central Park. C'était la rentrée littéraire 2024, littérature de l'imaginaire. Des propositions de lecture de Chantal Fontaine, parues le 3 septembre 2024 dans la revue Les Libraires.